Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquil.
Bonsoir. À la une, l'émotion et l'hommage aux 13 soldats français tués au Mali. Nous leur consacrons la première partie de ces informés. Nous reviendrons également sur les retraites. Ultime round à Matignon sans résultat et l'offensive parlementaire pour en finir avec le Black Friday. C'est dans les informés avec Claude Guibal, journaliste reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous vous êtes régulièrement rendu en zone rouge sahélienne. Bienvenue à vous, Claude. Bonsoir à vous. Roselyne Fèvre également, chef du service politique de Front 24, avec Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bienvenue à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour ces informés. Vous avez entendu à l'instant dans le journal d'Emmanuel Langlois l'émotion d'un père, le sénateur Jean-Marie Bockel, dont le fils Pierre, pilote d'hélicoptère, figure parmi les 13 militaires français tués au Mali. 41 soldats français tombés au Sahel. La France qui paie un lourd tribut à la guerre contre le terrorisme. Voici les mots de la ministre de la Défense des Armées, Florence Parly, à l'Assemblée nationale, après un hommage debout de l'ensemble des députés.
Je voudrais rendre hommage à ces hommes que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer il y a quelques jours à Gao. Ces 13 militaires exceptionnels sont des héros qui sont morts pour la France. Mes pensées, comme vous, vont aujourd'hui vers leurs familles, vers leurs proches, vers leurs frères d'armes, vers leur régiment, le 5e RHC de Pau, et la 27e brigade d'infanterie de montagne.
Alors nous allons revenir sur les circonstances de ce qui s'est passé, cet accident en zone de combat hier soir. Bilan particulièrement élevé, Roselyne Fèvre, qui nous rappelle que la France est en guerre.
Oui, une guerre qu'on ne voit pas, une guerre un peu secrète. Et c'est vrai que c'est toujours un drame pour le pays de voir revenir des cercueils. C'est un drame pour ceux qui le dirigent, qui dirigent ce pays et qui envoient ces hommes. On a entendu la réaction de Florence Parly quand elle a dit « Nous nous sentons charge d'âme ». C'est un coup dur, très dur pour l'armée qui a perdu donc 13 des leurs, dont 6 officiers qui devaient diriger une opération antiterroriste, donc qui ont perdu un état-major de terrain, des hommes extrêmement entraînés, pointus, une unité d'élite. Et c'est une guerre, pour répondre à votre question, dans laquelle la France est quasiment seule.
Claude Guibal, vous connaissez bien le terrain, vous m'avez confié que vous êtes rendu à de nombreuses reprises récemment sur zone. On va le rappeler peut-être avec vous.
Oui, j'étais encore il y a une dizaine de jours au Burkina Faso, juste de l'autre côté de cette frontière, en fait, dans cette zone des trois frontières au sud du Mali, qui est devenue aujourd'hui l'épicentre d'un djihad qui s'est déplacé, on l'a vu ces dernières années, du nord du Mali et qui descend progressivement le Burkina Faso et ainsi de suite.
Claude, c'est une zone particulièrement difficile d'un point de vue militaire, parce qu'elle est vaste d'abord.
Alors, c'est une zone immense. On parle du Sahel. On doit parler de l'opération Barkhane en général. C'est 4500 hommes sur une zone, on le répète régulièrement, grande au moins comme l'Europe. Une zone qui est extrêmement accidentée géographiquement. Et puis une zone où les djihadistes ont beaucoup appris en fait en 6-7 ans de conflit. C'est-à-dire qu'au départ, quand l'opération Serval a été lancée, l'opération Serval qui est l'ancêtre de Barkhane, c'était pour sécuriser le nord du Mali. Donc c'était une zone plus conscrite, si vous voulez, et où les djihadistes à l'époque, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Les djihadistes étaient à occuper des territoires, à établir un califat, vous vous souvenez, à Gao, à Kidal, donc on occupait des villes. Les djihadistes ont compris la limite de cette stratégie-là. Les villes, ils ne cherchent plus à les occuper. Ce qu'ils essaient de faire et ce qu'ils font en ce moment, c'est ils vident des espaces entiers, des espaces ruraux, ils attaquent les positions militaires, ils sont répartis sur des zones immenses, ils sont presque invisibles, ces hommes, ils sont là, ils attaquent, ça a été le cas encore, ils viennent à pick-up, ils viennent à moto, en face vous avez une armée qui arrive, une armée française qui arrive avec des blindés, donc tout le monde prévient de l'arrivée d'une armée dans un village, si on soupçonne que des terroristes sont cachés. C'est une zone où ils ont la maîtrise du territoire et où les soldats français ne l'ont pas.
Oui, une zone qui s'étendrait en termes de fuseau horaire, on va dire grosso modo, de la France à Moscou. Hein, c'est immense. Albert Zenou, pour poursuivre ce qui est dit autour de cette table, au fond, cela fait depuis 2013 que cela dure. Hein, vous évoquiez, Claude, à l'instant, eh bien Serval, puis Serval et Épervier ont fait jonction, si je puis dire, l'année suivante pour devenir Barkhane. 2013, cela fait 6 ans que ça dure, Albert Zenou. C'est une guerre qui s'installe.
C'est une guerre qui s'installe et qui est pas prête de s'arrêter. Il est important pour la France, pour l'Europe, pour le monde en général, de maintenir en tous les cas les unités djihadistes, de les limiter dans le territoire. Comme le disait Claude, il est difficile d'aller éradiquer complètement la menace djihadiste, parce qu'elle est éparse, elle est fugace, elle est furtive. Mais la France a un rôle très important dans ce Sahel. Elle ne peut pas se retirer. Je sais qu'il y a un débat qui commence à naître, notamment
chez LFI,
La France a un devoir de combattre la menace djihadiste. Alors après, la difficulté, c'est elle est toute seule pour l'instant, ni aidée financièrement, ni militairement par notamment l'Europe. Donc on crie toujours, demande à avoir une norme européenne, mais pour l'instant
on est bien seul, c'est ça. Oui, Gilles Bornstein, vous pensez que c'est une guerre que les Français admettent, comprennent?
Manifestement, si l'on en croit les sondages, c'est une guerre que les Français admettent, mais c'est vrai que c'est une guerre qui avait été lancée avant les attaques terroristes, mais dont le but avoué était de lutter contre la prolifération d'éventuels terroristes qui pourraient traverser le Sahara pour venir commettre des attentats chez nous. Et Dieu merci, il n'y a pas d'attentats depuis un certain temps. On vient de célébrer les quatre ans du Bataclan. Il n'y a plus d'attentats depuis un certain temps. Donc peut-être que pour les Français, la perspective d'attentats imminents s'éloigne et que donc l'opportunité, la nécessité de lutter contre s'éloigne aussi. Donc je pense que pour les Français, oui, c'est certainement une guerre légitime, mais ils voient que c'est beaucoup d'hommes, que c'est beaucoup d'argent, et ça compte en ce moment, que c'est beaucoup de morts qui reviennent. Et quand, on en parlera après les titres, mais quand la France insoumise réclame un débat, alors il y a peut-être un délai de décence à respecter, peut-être ne l'a-t-elle pas fait, mais en démocratie, c'est le politique qui doit décider.
Vous dites que ce débat serait légitime.
Oui. En tout cas, c'est le politique. On va y venir.
Allez, on marque une pause. 20h10 sur France Info. Tout d'abord, c'est le rappel de l'info avec vous, Jules Dequis.
Le Mali, le Burkina, le Niger expriment leur solidarité avec la France après la perte de ses 13 militaires hier. Ce sont les partenaires de l'État français dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. Les 13 soldats sont morts dans la collision de 2 hélicoptères. C'était en pleine nuit noire pendant une opération de combat, précise la ministre des Armées Florence Parly. Une cérémonie aura lieu aux Invalides ces prochains jours. 900 étudiants à Lyon, 200 à Nantes, quelques dizaines à Paris. Des rassemblements pour dénoncer la précarité à l'université, demander des mesures au gouvernement. Une mobilisation 2 semaines après qu'un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon. Il liait son geste à ses difficultés financières. Michel Fourniret est convoqué demain en vue d'une mise en examen dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. C'est une information de nos confrères de France Inter. La juge qui dirige cette enquête va s'entretenir avec le tueur en série. Son ex-épouse contredit l'alibi qu'il fournit dans cette affaire. Elle remonte au 9 janvier 2003, jour de la disparition de l'enfant de 9 ans en Seine-et-Marne. Le bilan s'alourdit en Albanie, 21 morts après le tremblement de terre de ce matin. Les recherches continuent, des sauveteurs français partent pour y prendre part. Et puis dans moins d'une heure, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Une victoire et le PSG serait assuré de terminer premier de son groupe de la Ligue des champions de football. On vient de connaître les compositions d'équipe. Le Brésilien Neymar est sur le banc, Kylian Mbappé, lui, est titulaire pour les Rouges et Bleus.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Avant d'en venir à ce débat autour de l'opportunité ou pas d'être au Sahel, quelques mots tout de même sur les circonstances de cette collision en vol. Voici le récit du général François Lecointre, le chef d'état-major des armées.
Il s'agit d'une opération difficile, par nuit noire, dans des conditions de combat. Et j'insiste sur le terme combat. C'est pas simplement un accident ou une collision. C'est un accident qui se passe lors d'une opération de combat de reconnaissance avec des hélicoptères qui manœuvrent en recherchant et en menant cette reconnaissance pour détecter l'ennemi au sol sans dispositif anti-collision parce que les hélicoptères de l'armée ne sont pas munis de dispositifs anti-collision, parce qu'ils fonctionnent souvent en dispositifs extrêmement serrés, très opérationnels. Donc ce qui explique un accident de cette nature-là, dans des conditions opérationnelles exigeantes, par nuit noire et dans une opération de combat. Ce qui explique évidemment que ça n'est pas un accident ordinaire.
Claude Guibal, il n'y a pas de guerre facile, si je puis dire. Chaque guerre a ses particularités. Mais là, tout de même, au Sahel, là où ça se produit hier soir, c'est une zone particulièrement hostile.
C'est une zone particulièrement hostile. Et pour bien comprendre ça, il suffit de savoir que c'est dans cette zone. La semaine dernière, quand une seule attaque, 43 soldats maliens ont trouvé la mort. Rien que le mois dernier, dans cette zone-là...
C'était la garnison d'Indeliman, c'est
voilà.
Ça
attaqué en plein jour. En un mois, il y a eu 100 soldats maliens, 170 soldats en tout dans cette zone, si on compte les soldats burkinabés qui ont été attaqués eux aussi de l'autre côté de la frontière. Il faut vraiment voir l'intensité de ces combats au sol. Avec des groupes, là, on sait que le général François Lecointre l'a dit aujourd'hui, les forces françaises étaient engagées dans une opération contre l'EIGS, qui est donc l'État islamique hein, au Grand Sahara, donc le Daesh, si vous voulez. Oui. Mais il y a dans cette zone plusieurs groupes terroristes qui se font à la fois concurrence, puis qui viennent en soutien l'un de l'autre. Donc il y a Daesh, mais il y a également ce qu'on appelle le JNIM ou le JSIM, qui est donc l'émanation d'ACMI, Al-Qaïda. Il y a encore Ansarul Islam. Tout ça s'articule avec, selon les circonstances, hein, c'est des alliances de circonstances avec des groupes mafieux locaux, des contrebandiers, et c'est complètement impalpable, invisible, très 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 difficile, parce que ce sont eux qui ont la maîtrise du terrain, comme je le disais, et ce sont eux qui, depuis des mois, sont à l'initiative en fait à chaque fois des attaques.
Avec des forces africaines, Albert Zenou, on l'a dit, redit, ce G5 Sahel qui a du mal à émerger, qui sont peut-être pas forcément au niveau.
Qui sont certainement pas au niveau. C'est l'un des problèmes de l'armée française au Sahel, c'est qu'elle n'est pas épaulée par une armée ni malienne ni sahélienne suffisamment aguerrie.
Excepté les Tchadiens quand même, qui sont.
Oui, effectivement.
Les Tchadiens, vous dites.
Mais les Tchadiens viennent un peu.
Mais il y a l'armée française est un peu seule. Donc effectivement, il y a des opérations qui sont menées régulièrement et constamment, mais ça ne suffit pas à arrêter les djihadistes sur place. Et c'est ce qui complique énormément la tâche de l'armée sur place.
Alors l'heure est au recueillement et non au questionnement sur le bien fondé de l'engagement militaire français au Sahel, a déclaré Florence Parly à l'Assemblée nationale. Et pourtant, le député La France Insoumise, on y vient, de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud, a interpellé le Premier ministre et bien sur le sens de cet engagement français dans la zone.
Aujourd'hui, le pays entier s'interroge sur les objectifs poursuivis et la stratégie adoptée. Le mot de terrorisme a confondu trop de réalités diverses et notre ennemi n'a pas été clairement identifié. Nos armées remportent des victoires tactiques, mais la crise s'étend. Or, la crise est politique. La force ne peut y apporter de solution. Pendant ce temps, la France a dépensé 3,5 milliards d'euros en 6 ans d'opérations militaires. Dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, il est impératif de fixer un cap à l'action, de préciser votre stratégie et de nous dire quelles sont les voies et les moyens que vous comptez adopter pour parvenir au retrait de nos forces du Mali.
Alors on va écouter la réponse du Premier ministre, mais d'abord je reviens vers vous, Gilles Bornstein. Vous dites-vous débat légitime ce soir ?
Non, moi je dis que c'est vrai qu'il y a un côté choquant à ce que quelques heures après l'annonce de ces 13 décès, on ouvre des débats politiques.
Trop tôt, pas aujourd'hui.
Bah, en tout cas, il y a généralement, on attend un petit peu. Généralement, il y a quelques jours d'Union nationale.
C'est ce que disait Jean-Michel Jacques, hein, dans ce studio, le député de La République En Marche, ancien des forces spéciales, dit pas aujourd'hui.
Voilà, pas aujourd'hui. Maintenant, sur le fond des débats, je trouve l'interrogation du, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il dit, c'est pas le problème. C'est assez légitime. En démocratie, ce sont les politiques qui envoient des militaires au front. C'est pas les militaires qui décident eux-mêmes. Il est assez logique d'avoir un débat sur l'opportunité ou pas de cette guerre. Alors c'est vrai qu'en France, on a une culture présidentielle où le président de la République décide en gros tout seul. Il n'y a pas vraiment de débat parlementaire. C'est différent de la Grande-Bretagne, c'est différent des États-Unis. On n'est pas dans cette culture de la discussion autour des interventions étrangères. Le fait qu'on en discute ne me paraît pas insensé. Et le député Bastien Lachaud a posé la question de façon assez raisonnable, sans les excès de langage que peut avoir parfois Jean-Luc Mélenchon.
Oui, il fait partie d'ailleurs de la commission de la défense.
Voilà, j'ai pas de réponse particulière à ce qu'il dit, mais le fait qu'il pose les questions ne me paraît pas illégitime.
Roselyne Fèvre.
Oui, le problème, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est que effectivement, la France est seule face à beaucoup d'acteurs. Claude Guibal l'a rappelé. Il y a donc ces groupes armés islamiques, les trafiquants, les bandits, et puis ces tensions intercommunautaires entre les Peuls et les Dogons. Donc il y a beaucoup d'acteurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'entraîne pas l'adhésion d'autres pays avec nous? Parce que il y a la Grande-Bretagne, il y a les Espagnols, il y a les Allemands, mais ils fournissent une aide logistique à la MINUSMA, pas au G5 Sahel. Ils et comme vous l'avez rappelé également, eh bien, c'est les armées africaines, excepté le Tchad, des armées africaines qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, qui n'ont pas confiance en leur chef et qui ne savent en réalité pas se battre. Donc, c'est peut-être de faire un bilan, pourquoi pas, de savoir à quoi, est-ce qu'on réforme un peu la mission de Barkhane.
D'ailleurs,
ça, c'est pas illégitime. Oui,
Emmanuel Macron avait prévu de préciser la stratégie militaire au Sahel dans les semaines qui à venir. Et je pense que là, les 13 morts d'hier soir vont précipiter un peu la décision et le débat en tous les cas. Il y a une stratégie à préciser pour ce qu'on veut faire au Sahel et surtout essayer d'entraîner les autres. Pour l'instant, la France est seule.
Claude Guibal, vous voyez, la France est seule. C'est ce qui se dit et se redit à chaque fois, même si d'autres forces tentent de se constituer autour.
La question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que la seule réponse à apporter à ce conflit au Sahel est une réponse sécuritaire?
Oui, c'est exactement ce qu'a demandé Bastien Lachaud.
Je vous ai vu acquiescer tout à l'heure quand Bastien Lachaud évoquait.
La réponse est non, parce qu'on a là un ennemi qui n'est pas un ennemi conventionnel et dans une guerre contre le terrorisme, une guerre contre un ennemi non conventionnel, ce dont on a besoin, c'est la puis des populations, parce que ce sont des djihadistes qui se cachent dans les populations, qui connaissent ce terrain-là. Et donc, pour obtenir l'adhésion des populations, il faut que les populations se sentent redevables et appartenir à leurs États. Or, on est dans des zones en totale déshérence. Il y a des milliards d'euros qui sont déversés sur le Mali depuis des années, en aide, etc., dont les Maliens ne voient pas le bout d'un centime. Donc, ces gens dans les régions qui sont infestées par les djihadistes, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent aider leur armée nationale, aider leurs renseignements nationaux pour prévenir de la présence de tel ou tel djihadiste? Il faut du développement, il faut une meilleure gouvernance, il faut un pays où toutes les communautés se sentent représentées par leur État. Ce n'est pas le cas au Mali.
Les Maliens se plaignent de la présence française en plus.
Et le sentiment anti-français ne cesse de monter dans cette région.
Avant de poursuivre, d'entendre la réponse d'ailleurs d'Edouard Philippe, le Premier ministre, tout d'abord à 20h20 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Jules Dequis.
Il nous manque déjà quelques mots pour résumer l'émotion après la mort de 13 soldats français hier au Mali, ceux du général Pierre-Joseph Givre qui commandait certains d'entre eux. Ces soldats sont morts en héros pour nous protéger, réagit Emmanuel Macron. Ils ont péri dans la collision entre deux hélicoptères en pleine mission de combat. Cela porte à 41 le nombre de militaires français morts depuis le début de l'opération anti-djihadiste au Sahel il y a bientôt 7 ans. Reda Cricket sera jugé devant une cour d'assises spéciale pour association malfaiteur terroriste criminel. Les enquêteurs ont retrouvé chez ce délinquant multirécidiviste radicalisé un arsenal impressionnant. C'était en 2016 en banlieue parisienne, à quelques semaines de l'Euro de football organisé en France. Les juges viennent d'ordonner son renvoi avec 6 autres prévenus. Alors que les agriculteurs français manifestent demain aux abords de Paris pour demander de meilleurs prix, de meilleurs revenus, leurs homologues allemands se mobilisent aussi. Des milliers de personnes et des tracteurs dans la capitale Berlin aujourd'hui. Ces éleveurs et ces céréaliers ne veulent pas d'un plan du gouvernement contre les engrais et les pesticides. Au moins 41 personnes sont mortes au Congo, dans la capitale Kinshasa, après des pluies intenses. Des victimes d'inondations, de glissements de terrain et d'électrocutions dans des bidonvilles densément peuplées. PSG Real Madrid, c'est l'affiche du soir en Ligue des Champions de football. Les Parisiens en terre espagnole pour glaner au moins un point, un nul ou une victoire pour s'assurer de la première place de leur groupe. Autre affiche du soir, la Juventus Turin contre l'Atlético Madrid.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Un débat autour de l'engagement de la France au Sahel est-il légitime? Question posée tout à l'heure par Bastien Lachaud, député de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Écoutez la réponse du Premier ministre Édouard Philippe.
Au Mali, la France livre un combat rude, un combat contre des hommes, contre des bandes qui cherchent à déstabiliser les États et à s'organiser pour pouvoir, par la suite, nous déstabiliser nous-mêmes.
La France se bat au Mali, monsieur le député, vous le savez, depuis que le précédent président de la République a choisi d'apporter le secours de la France, et il a bien fait, à un État qui était menacé de déstabilisation par une colonne.
Voilà, Édouard Philippe qui faisait évidemment allusion au président François Hollande, hein, qui avait lancé l'opération Serval, donc janvier 2013, pour stopper cette colonne d'automitrailleuses de djihadistes qui fonçaient alors sur Bamako. Gilles Bornstein, la réponse n'est pas seulement militaire, mais elle est éminemment et avant tout, avant de parler de quoi que ce soit finalement. Et ça commence par peut-être un traitement sur le terrain.
Oui, en tout cas, là, le Premier ministre, dans une partie de sa réponse qu'on n'a pas entendue à l'instant, a dit que, évidemment, la réponse militaire était nécessaire, mais qu'elle n'était pas suffisante, manière de répondre
il
à
l'a
Bastien
précisé,
Lachaud.
Oui.
Il l'a précisé, il a dit qu'en tout cas, qu'elle était une condition nécessaire au développement, qu'on n'était pas là que pour mener des opérations militaires, qu'on était là aussi, c'est un débat, hein, qu'on était là aussi pour assurer le développement de ces pays-là, et que sans stabilisation militaire, il n'y avait pas de développement possible. Je voudrais dire un mot sur le fait qu'on est seul, parce que s'il y a eu un consensus aujourd'hui dans les réactions, c'est de dire, c'est vrai, on est tout seul à assurer la sécurité de l'Europe et tout le monde l'a déploré. Et quand on dit tout seul, il faut dire les choses telles qu'on le pense, et l'Allemagne n'est pas assez là. L'Allemagne qui est un géant économique mais un nain militaire, l'Allemagne qui avec ses excédents aurait les moyens ne nous aide pas assez.
C'est oui, tout c'est ce une aide logistique, hein, notamment avec des avions de transport, etc.
C'est tout ce
oui.
qui se transparaissait oui. sans dire vraiment les mots, parce qu'on sentait la prudence diplomatique, mais ce drame qui rendrait la présence de l'Allemagne indispensable le rend impossible d'une certaine manière, parce que tous les experts disaient que ces images de 13 corps qui reviendraient en Allemagne sont absolument impossibles pour l'opinion publique allemande, et que l'Allemagne, la société allemande, n'est pas prête, démilitarisée pour les raisons qu'on connaît, oui. l'Allemagne n'est pas prête à accepter de payer le prix du sang, comme nous, d'une certaine manière, nous sommes prêts à le payer.
Albert Zenouz, sur, au fond, cette asymétrie militaire européenne, c'est l'éternel problème, finalement.
C'est l'éternel problème. Je reviens un petit peu sur la situation de la France au Mali. Il y a, malgré tout cet embrouillot, cette complexité d'ethnie, de trafic en tout genre, de corruption, se rajoute à ça la volonté du pouvoir malien, enfin en tous les cas une tentation du Mali de parler avec les djihadistes. Et c'est ce qui rend encore les choses très très compliquées. Alors la France, les États-Unis, enfin l'Europe ne voit pas ça d'un très bon œil, mais on le comprend. Mais il y a aussi ça, se rajoute à ça cette envie peut-être de s'arranger avec les djihadistes, enfin le pouvoir malien s'arranger avec les djihadistes pour essayer de trouver une solution.
Ce qui serait vous confirmez ce que dit Albert Zenou, Claude Guibal, un petit peu comme ce qu'on a assisté au fil des décennies en Afghanistan. Hein.
Oui, on le voit en Afghanistan avec aujourd'hui. Les discussions qui se font avec les talibans, ce qui les légitime évidemment, du coup, dans un processus qui, lui, délégitime les autorités en place. Oui, il y a des tentatives de discussion au Mali, c'est des questions qui se posent aussi plus généralement, parce qu'on est dans une forme aussi de djihadisme qui est très particulière à cette région. Hein. On ne voit pas des djihadistes français qui vont s'enrôler dans les rangs des djihadistes en Afrique de l'Ouest. On n'est pas dans la situation d'un djihad comme celui qu'on connaît au Proche-Orient, on est vraiment dans des dynamiques locales. Et c'est aussi ça qu'il faut voir, hein, qui joue. C'est pas tant la peur d'attentats en France qui se produit aujourd'hui, c'est la peur de gros déplacements de population. C'est qu'il y a aujourd'hui une pression démographique, une pression liée à la question des réfugiés qui risque effectivement d'avoir des répercussions sur l'Europe. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans la stratégie des djihadistes? Eux, à l'inverse, ce qu'on voit, c'est qu'ils descendent. Ils sont en train, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, de descendre du nord du Mali, aujourd'hui à la frontière burkinabé. Cette contagion, elle s'est faite aussi au Niger, en Tchad, etc. Mais elle descend en plus maintenant, aujourd'hui, vers les pays du Golfe de Guinée, vers l'accès à la mer. Ces pays qui ont tous des élections l'an prochain. C'est à la faveur de cette déstabilisation politique que les djihadistes pénètrent des terrains. Et l'accès au Golfe de Guinée, c'est-à-dire qu'on va créer comme ça des zones grises qui vont aller de la Méditerranée au Golfe de Guinée, des zones de trafic, des zones de circulation d'armes, de marchandises et d'hommes.
Est-ce à dire, Roselyne Fèvre, qu'au fond, Berlin est autant concerné que Paris par ce qui se passe à Bamako?
Bien sûr, bien évidemment, toute l'Europe est concernée par cela. Mais on l'a dit, Gilles a évoqué les raisons pacifiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des Allemands qui préfèrent effectivement avoir une diplomatie économique plutôt qu'une diplomatie militaire, d'abord parce qu'elle n'en a pas les moyens et qu'elle n'en a pas envie. Mais c'est aussi, alors vous disiez effectivement cet accès à la mer, c'est aussi pour protéger des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce que les économistes appellent l'Afrique utile, c'est une Afrique où il pleut, où il y a du café, où il y a des cultures. Donc c'est une Afrique qui est urbanisée, qui est prospère, qui a une industrie. Donc on protège aussi cette Afrique-là. Alors, on a aussi des hommes, en plus de Barkhane, qui sont au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et puis, on empêche effectivement, ce que vous disiez, Claude, ces djihadistes d'accéder à la mer pour aller en Europe et également aussi pour tous les trafics de tous ces bandits.
Oui, avec quand même une dimension, Gilles Bornstein. Pour conclure cette première demi-heure, on va y revenir un petit peu dans la deuxième partie des informés, avec une, au fond, une extension qui ne peut pas aller à l'infini non plus de l'implication de la France sur la zone quand même.
Bah, on sait qu'il n'y a jamais eu autant de militaires français en opération extérieure. Enfin, je ne suis pas un spécialiste. Claude connaît ça certainement beaucoup mieux que moi. 4500 hommes, c'est beaucoup d'argent. C'est sûr qu'on voit qu'il y a des problèmes dans l'armée française. Alors, le président de la République, avec la loi de programmation militaire, a essayé de redonner à l'armée française les moyens dont elle disait manquer. Mais c'est sûr que je pense que tout le monde a quelque part la sensation que on ne peut pas effectivement étendre à l'infini les terrains d'action pour finalement ce que nous sommes, c'est-à-dire une puissance moyenne.
Allez, qui vient faire le sale boulot pendant que d'autres viennent faire les affaires.
C'est l'heure de la pause. On va revenir au début de la deuxième partie des informés sur la réponse justement militaire et européenne. On se retrouve dans un instant après la météo et le rappel de l'info. Les prévisions d'Élodie Calac pour Météo France.
Un temps agité, beaucoup de vent. Ce soir et cette nuit, la perturbation continue sa route vers l'est avec de bonnes pluies, parfois orageuses. Elle est suivie d'un ciel de traîne actif avec des averses fréquentes. Le vent se renforce partout, jusqu'à 90 km à l'heure dans les terres, 110 sur les Pyrénées, 100 à 120 près de l'Atlantique. Demain matin, on retrouvera les pluies soutenues et parfois orageuses vers la vallée du Rhône, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Il neigera en montagne. Il faudra attendre l'après-midi pour retrouver des éclaircies sur ces régions. Ailleurs, encore de nombreuses averses, parfois un orage, du vent jusqu'à 70 km à l'heure dans les terres, 90 sur les côtes, jusqu'à 100 du côté du Cotentin. On trouvera tout de même des éclaircies entre les Pyrénées et le Languedoc. Il fera doux, 6 à 12 degrés le matin, l'après-midi 12 degrés à Lille, 14 à Paris, La Rochelle, Besançon, 15 à Clermont-Ferrand, 17 à Biarritz, à Marseille et 19 à Perpignan.
Et 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Une cérémonie d'hommage national présidée par Emmanuel Macron aura lieu aux Invalides dans les prochains jours après la mort de 13 militaires français de l'opération Barkhane. C'était hier soir au Mali dans la collision de deux hélicoptères engagés dans une mission de combat contre des djihadistes au Sahel. Lors d'une conférence de presse, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé qu'elle se rendrait auprès des forces françaises au Mali dans les tout prochains jours. Elle a également donné des éléments de contexte sur la disparition des 13 soldats et a tenu à rendre hommage aux militaires et à leurs familles. Mathieu Mondoloni.
Capitaine Nicolas Mégard.
La ministre a égrené les noms.
Capitaine Benjamin Gireux.
13 noms d'hommes.
13 héros.
Auxquels un hommage sera rendu dans les prochains jours aux Invalides et qui ont payé de leur vie le combat mené par la France contre le terrorisme, a rappelé Florence Parly.
La lutte contre le terrorisme est un combat sans répit et sans merci. Je voudrais dire à nouveau, tout le respect que nous devons tous avoir pour ces femmes et ces hommes qui s'engagent partout dans le monde et sur notre territoire national pour protéger notre pays, la France et les Français.
Ce combat, les 13 militaires le menaient justement hier soir lors d'une opération spéciale contre l'État islamique au Grand Sahara, a expliqué le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre.
Les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que ces deux explosions sont dues à une collision en vol entre deux appareils. Information est confirmée rapidement après. Il s'agit d'une opération difficile par nuit noire, nuit de niveau 5, dans des conditions de combat Et j'insiste sur le terme combat.
Les boîtes noires des deux hélicoptères ont été retrouvées, a ajouté le général. Elles devraient permettre rapidement d'en savoir davantage sur les circonstances précises de ce drame.
Mathieu Mondoloni, 7 des 13 militaires français tués hier soir au Mali appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Le gouvernement accélère son calendrier avant la grève de jeudi prochain 5 décembre. Le Premier ministre Édouard Philippe et le haut commissaire Jean-Paul Delevoye feront des annonces d'ici 2 à 3 semaines, selon Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Annonce sur la réforme des retraites, syndicats et patronats continuent d'être reçus à Matignon avant un séminaire gouvernemental dimanche. À Lyon, la cour administrative rejette de nouveau l'arrêté municipal anti-remise à la rue pris en mai dernier par Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Il prévoyait qu'un propriétaire voulant expulser un locataire devait justifier qu'une solution de logement ou d'hébergement avait été proposée. Des immeubles qui s'effondrent comme des châteaux de cartes, les secouristes continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants après le plus puissant séisme à frapper l'Albanie depuis plusieurs décennies. Le tremblement de terre de magnitude 6,4 degrés sur l'échelle de Richter est survenu aux petites heures du matin. Il a fait au moins 21 morts et des centaines de blessés d'après le dernier bilan. Et puis la superstar brésilienne Neymar, remplaçant ce soir avec le PSG pour affronter le Real Madrid de Zinedine Zidane en Ligue des Champions. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a préféré titulariser Kylian Mbappé ainsi que Mauro Icardi et Angel Di Maria en attaque. Absent des terrains pendant plus d'un mois avant son retour à la compétition vendredi dernier, Neymar pourrait faire toutefois ses grands débuts en Ligue des Champions s'il entre en jeu ce soir, match à 21h. Les informés, ça continue.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Claude Guibal, journaliste reporter à la rédaction internationale de Radio France, avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Nous évoquions au lendemain de la mort de ces 13 soldats français tués en opération au Mali, la question de l'implication de l'Union européenne, du moins de ses forces au Sahel. J'ai posé la question tout à l'heure à Jean-Michel Jacques, qui était l'invité du 1850 France Info, qui est député La République En Marche du Morbihan, ancien commando de marine, 17 années passées dans les forces spéciales, qui est vice-président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, qui s'est dit d'ailleurs assez choqué au passage que la France soumise et soulever ce débat dès aujourd'hui, débat nécessaire certes, mais après le temps de l'hommage. Jean-Michel Jacques a évoqué la constitution d'un groupement de forces spéciales européennes.
Il ne faut pas qu'on continue seul. D'ailleurs, c'est l'initiative aussi qui a été portée par la France, c'est de faire un groupe de forces spéciales de différentes nationalités. Certains pays d'Europe se réunissent et vont faire une force de combat pour détruire et réduire un adversaire. Ça va prendre un certain temps, mais une fois qu'elle sera en place, je pense qu'elle sera efficace parce que tous ces pays travaillent, sont interopérables, ils travaillent avec l'OTAN, ils ont des outils identiques et ils se connaissent, ils parlent la même langue.
Et la France, vous le confirmez ce soir, va rester au Sahel et va poursuivre les opérations.
Sous la forme de Barkhane, qui est une force qui détruit et qui neutralise les djihadistes, mais qui n'est pas du tout une force qui fait la sécurité intérieure.
Albert Zenou, la France va poursuivre, mais il ne faut pas rester seul. C'est Jean-Michel Jacques qui le dit, et ce n'est pas rien. Tout de même, cela paraît un petit peu embryonnaire pour l'instant, cette histoire de forces spéciales européennes.
Je dirais même très embryonnaire. Pour l'instant, rien n'indique qu'une force soit opérationnel avant un petit bout de temps, une force européenne, et la France continuera toute seule à assurer ses opérations au Mali, avec, je le dis, une certaine réussite. Le seul problème, c'est que vous détruisez un pick-up, il y en a 3 qui arrivent, vous éliminez 10 terroristes, il y en a 50 qui reviennent de l'autre côté. Enfin, c'est un puits sans fond. Donc, il y a une difficulté
à constituer une vraie
force commune. Et puis, est-ce que l'Europe, puisqu'on parle toujours d'Europe, comme disait le général, mais il faut aussi qu'elle ait conscience que c'est aussi le rôle de l'Europe, oui, de jouer ce jeu-là.
Et Claude Guibal, vous nous dites ce soir que la Russie s'en mêle.
Mais c'est-à-dire que justement dans cette impasse sécuritaire où la présence française entre autres est remise en question par des populations locales qui elles sont victimes directement de cette insécurité et qui se disent mais enfin finalement ces Français qui sont là depuis 6 depuis 7 ans cette armée qui est si forte, comment ça se fait que cette armée française, les 13 000 hommes de la MINUSMA, les 5 000 hommes du G5 Sahel, les 4 500 soldats de Barkhane, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à venir à bout de ces 3 000, 4 000 soldats? Et c'est là que toutes les théories conspirationnistes, etc. commencent à arriver. On vous dit, ah mais les Français, est-ce que finalement cette armée elle n'est pas là pour protéger les intérêts français, l'accès aux ressources minières et compagnie? Et puis on a la Russie qui cherche à intervenir, à prendre place, à investir cette zone d'influence française pour mettre un pied dans le Sahel. On l'a déjà vu mettre un pied en Afrique centrale, notamment en République centrafricaine, hein, où désormais les Russes sont extrêmement présents. On a vu la Russie signer un partenariat militaire avec Bamako, avec le Mali, l'été dernier, une coopération militaire. Et là, tout récemment, c'était il y a encore quelques jours, au Forum de Dakar pour la sécurité en Afrique de l'Ouest. On a vu le Burkina Faso et le Tchad qui ont fait clairement de gros appels du pied à Moscou pour leur dire, bah, écoutez, venez intégrer le partenariat stratégique pour la paix au Sahel, hein, le partenariat qui a donc été impulsé l'été dernier lors du sommet du G7 à Biarritz, pour dire à Moscou, bah, venez, puisque un partenaire ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, et puis, entre guillemets, que le meilleur gagne.
En plus, ça permettrait à Moscou de briser un peu le cadenas diplomatique dans lequel la Russie est enferrée, avec dans les suites...
Oui, tout à fait. Pour conclure avec vous, Roselyne Fèvre, il y aura cet hommage national, hein, présidé par Emmanuel Macron. Ce sera le troisième hommage, on va dire, depuis le début de son quinquennat de ce type. Ça compte pour l'opinion?
Oui, que le président, bien sûr... En tant que père de la nation, bien évidemment, accueille ses cercueils et fasse cet hommage national. Bien évidemment, c'est un rôle dans lequel Emmanuel Macron aime faire ressortir cette flamme du héros. Il aime ça. Il sait le faire d'ailleurs et très bien le faire. Donc évidemment, ça c'est toujours un moment de communauté nationale. Et tant qu'il peut, alors c'est pas cynique hein, ce que je dis, mais aussi capitaliser sur ce genre d'événement bien triste, bien dramatique, en tout cas il sait faire et il sait rassembler dans ces moments-là.
Tout de même, Gilles Bernstein, pour rebondir sur ce que dit Roselyne Fèvre, hommage... Nécessaire, indispensable, j'ai envie de dire ce soir, non?
C'est la tradition, maintenant, c'est la tradition. Mais vous avez demandé, ça compte pour l'opinion publique, et Roselyne a raison de le dire, c'est pas cynique de dire, ça compte pour Emmanuel Macron aussi. Parce que dans cette période, on en parlera après les titres, dans cette période où la France souffre de multiples fractures qui n'arrivent pas à se résorber dans tous les sens, lui va pouvoir vanter la France unie et l'unité nationale, et c'est à l'évidence un moment qui va lui servir.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir donc sur ce drame. Hein. Ces 13 militaires français tués hier soir au Mali. Claude Guibal, journaliste reporter à la rédaction internationale de Radio France. Merci pour votre expertise. Je vous libère. Merci à vous d'avoir participé à ces informés. On va passer aux retraites dans un instant, mais 20h40 sur France Info. Place tout d'abord à l'info avec vous, Jules Dequisse.
Cette cérémonie dans quelques jours aux Invalides, un déplacement prochain de la ministre des Armées au Mali aussi. L'État se mobilise après la perte de 13 militaires hier lors d'une opération de combat à la frontière avec le Burkina. Deux hélicoptères se sont percutés. La Voix de la France Insoumise dénote au milieu des hommages. Le parti de Jean-Luc Mélenchon demande que soit amorcée une réflexion sur un calendrier de retrait des forces françaises au Mali. La mobilisation étudiante pour dénoncer la précarité n'attire pas les foules. 70 personnes environ mobilisées ce soir à Paris, environ 200 à Nantes un peu plus tôt. C'est à Lyon qu'il y a eu le plus de monde avec près de 900 manifestants réunis près de l'endroit où un étudiant s'est immolé par le feu il y a deux semaines. Alstom construira le nouveau métro de Marseille. L'industriel français remporte le contrat de 430 millions d'euros. Il va automatiser les deux lignes du réseau avec 38 nouvelles rames mises en service prévues pour 2024. Le bilan s'élève ce soir à 21 morts en Albanie après un tremblement de terre ressenti dans la capitale Tirana, mais c'est surtout sur la côte, dans la ville portuaire de Durrës, que les secousses ont été les plus puissantes avec des bâtiments complètement détruits. Neymar sur le banc, Mbappé, Icardi et Di Maria titulaires en attaque. On connaît la composition du Paris Saint-Germain pour le match du soir en Ligue des Champions de football. C'est contre le Real Madrid, coup d'envoi dans moins de 20 minutes.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Mais à quoi ont servi ces deux jours de consultation des partenaires sociaux sur les retraites donc à Matignon? Philippe Martinez, au sortir de son échange, entretien, appelez ça comme vous voulez, avec le Premier ministre Édouard Philippe et le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, eh bien expliqué leur avoir demandé d'arrêter les provocations, de recadrer les ministres. Le leader de la CGT a même expliqué que dire que ça serait une réforme qui ne toucherait que les régimes spéciaux était un mensonge éhonté. Philippe Martinez, qui est également revenu sur la mobilisation du 5 décembre.
C'était juste de la communication pour essayer de démontrer qu'il y avait du dialogue et qu'on pouvait discuter, sauf qu'on ne peut pas discuter. On a plein de propositions, mais à partir du moment où on n'est pas d'accord sur le principe du nouveau régime, on ne peut plus discuter. Il a semblé soucieux de savoir comment allait se passer le 5 décembre. Donc on lui a expliqué que depuis très très longtemps, on n'avait jamais eu autant de demandes, notamment de salariés dans les entreprises où il n'y avait pas de syndicats, qui voulaient savoir comment on faisait grève, dans le privé aussi.
Philippe Martinez, qui semble, Albert Zénou, boire du petit lait hein, quand il parle du 5 décembre.
Je pense qu'il y a une revanche à prendre aujourd'hui pour la CGT notamment, mais tous les syndicats. Alors peut-être pas la CFDT parce que c'est le syndicat qui est le plus réformiste et le plus en phase avec en tous les cas la réforme qu'on attend des retraites. Oui, il y a la volonté de marquer des points et de montrer sa force. C'est un jeu en particulier la grève et notamment la manifestation et ce 5 décembre le sera encore plus. Est-ce que la mobilisation sera aussi forte, aussi importante qu'attendue, et le gouvernement attend ce 5 décembre et voir les jours qui suivront pour voir dans quelle mesure c'est négociable encore, si on peut faire quelque chose. Et il y a ce petit jeu de du chat et de la souris. Mais la difficulté, j'étais ce matin avec un ministre important, comme on dit, je peux pas dire son nom, et une réforme sans la grève, c'est pas une réforme. Donc il y a aussi la volonté d'aller au combat de la part de l'exécutif. On voit bien que Emmanuel Macron et Édouard Philippe...
C'était un constat ou une conviction
Les deux, profonde. Les deux, un constat et une conviction. Oui. Et il y a une volonté de resserrer les rangs, il y a une volonté d'aller au combat, ouais. Montrer que on ne lâchera rien et de la part du gouvernement et on ira jusqu'au bout.
Roselyne Fèvre, au fond, recevoir les partenaires sociaux, notamment Philippe Martinez, dont on connaît les positions, à quoi ça servait?
Pas rien. À rien, c'est un théâtre.
Franchement, pourquoi ces deux jours?
Mais parce que c'est le dernier round avant le 5, donc il faut montrer qu'on a une volonté de dialoguer, que Édouard Philippe n'est pas comme son maître Alain Juppé, qui n'est pas droit dans ses bottes. Donc un dialogue pour dire quoi quand on veut pas discuter pour n'avoir rien à dire puisqu'on n'est pas d'accord. Donc c'est une épreuve de force, mais une épreuve de force où chacun est dans son placard. Et alors la CGT qui demande de remettre les compteurs à zéro. Donc ça, évidemment, c'est pas question. La CFDT, qui veut pas se retrouver avec deux réformes, elle est d'accord pour une réforme systémique, mais elle veut pas d'une réforme paramétrique, c'est-à-dire une réforme où il y aurait des mesures d'âge. Oui. Le MEDEF, lui, se colle sur le rapport du corps.
Chacun dans son rôle, quoi.
Oui, mais chacun dans son rôle. Donc voilà, et là-dedans, l'exécutif qui montre qu'il veut continuer sa volonté de réformer, qu'il ne cédera pas, avec l'argument massu, c'est « Oh, les méchants corporatistes, les gros égoïstes, regardez, ils sont assis sur leurs privilèges quand nous voulons réformer. »
Ça, c'est le message, on va dire, commun de
l'Union. C'est l'argument massu.
Gilles Bernstein, chacun dans son rôle, y compris d'ailleurs le gouvernement, qui maintient sa réforme, quel que soit, le risque à prendre politique du 5 décembre.
Alors, deux choses. Là, les stratégies sont extrêmement clair, c'est-à-dire que de fait le gouvernement joue l'opinion publique en expliquant que c'est une grève corporatiste, que c'est une grève pour défendre des avantages acquis, que c'est une grève pour bloquer la France. En gros, il explique, font grève tous les gens qui ont voté contre Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron veut ressouder sa base en disant suivez-moi parce que si vous m'avez élu, c'est exactement pour lutter contre les privilèges supposés de ces gens-là. Et puis de l'autre côté, les syndicats qui disent mais pas du tout, c'est pas du tout ça, vous n'avez rien compris, nous serons tous à la retraite et cette réforme elle va pénaliser tout le monde. Ce que je trouve déplorable là-dedans, c'est que Emmanuel Macron pérennise exactement le schéma français contre lequel il voulait lutter. Vous disiez tout à l'heure
Albert
qu'un ministre,
Zénou,
Albert disait tout à l'heure, un ministre m'a dit, s'il n'y a pas de grève, il n'y a pas de réforme. Mais c'est exactement ce contre quoi Emmanuel Macron voulait lutter. De dire, on allait pacifier la France, on allait arrêter...
Oui, c'était l'ancien monde, ça.
C'était l'ancien monde, et il pérennise...
Vous avez la sensation que peut-être certaines personnalités valideraient un peu ce réflexe.
En tout cas, il constate que c'est sa voie
de choc social. Et
il a perdu la grève. Dans le monde d'avant, effectivement, en France, dans le monde d'avant, dans un pays normal, effectivement, on discute pendant des mois. Et puis, si on n'arrive pas à un accord, on fait grève. Et c'est exactement le modèle que voulait promouvoir Emmanuel Macron.
On peut dire la même chose de la CFDT, qui est quand même un syndicat, vous l'avez dit,
réformiste,
et qui aujourd'hui, pour des raisons, qui se rend compte que le corps social se radicalise, qui veut rester le premier syndicat, la CFDT, et que la radicalité paye. Donc, il y a aussi une bagarre.
La CFDT aussi joue un rôle de jeu. La CFDT joue un drôle de jeu, mais la CFDT avait donné sa ligne rouge depuis le début.
C'est vrai.
Pas de réforme paramétrique.
Mais entre-temps, il y a le rapport du corps.
Sur ce qui va se produire...
Laurent Berger, il a des mandants comme tout le monde.
Sur ce qui va se produire le 5 décembre, et j'aimerais qu'on entende un petit peu les arguments de ceux qui soutiennent la réforme d'Emmanuel Macron. Voici Patrick Mignola, qui est député de la Savoie et qui est le patron du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Il était sur CNews ce matin.
Personne n'a intérêt à l'affrontement ? Mais personne n'a non plus intérêt au renoncement. Le gouvernement, aujourd'hui, il a mis beaucoup de choses sur la table de discussion, et contrairement à ce qu'on entend ici ou là, qu'on serait flou, qu'on n'aurait pas dit suffisamment les choses, dès lors qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut rééquilibrer le système de retraite, et qu'il faut le rendre plus juste, il faut qu'on ouvre la discussion, mais je crois que ne pas y renoncer, c'est-à-dire ne pas se dire que on veut faire la clause du grand-père, parce qu'il faut qu'on arrête avec la clause du grand-père, qui est en fait la clause de la cinglinglin, qui est la clause des calendes grecques.
Albert Zénou, personne n'a intérêt à l'affrontement, mais personne n'a plus intérêt au renoncement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de marche arrière, au fond. Ça va aller au bout.
Je pense que
ça va se jouer à la marge.
Ça va se jouer à la marge. Ça va se jouer en fonction
quelques aménagements,
en fonction de la mobilisation du 5 décembre. À partir du 5 décembre, mais le gouvernement a un gros problème, c'est que il a un Emmanuel Macron qui a dit des choses et qui a mis tout seul la clause du grand-père, par exemple. Il y a un flou total autour de cette réforme des
retraites.
Oui, quand
il répondait à l'âge pivot de Jean-Paul Delevoye par une déclaration autour de durée des cotisations.
Oui, alors, l'âge pivot,
ça a démarré comme ça.
Ça a démarré comme ça cet été, après le G7. Et donc arrive après la clause du grand-père, que personne n'avait vu venir, ou pratiquement, et qui remet... Alors là, pour les puristes de la réforme, c'est un peu incroyable. C'est-à-dire que la réforme rentrerait en 2067, à pleine mesure. Donc c'est lui tout seul qui a commencé à parler de cette clause. Donc mais il y avait une volonté pour lui de vouloir déminer un peu la contestation du 5 décembre, et il l'a réactivée d'une certaine manière en évoquant cette clause du grand-père qui est pour le coup inacceptable pour toute la majorité, y compris macroniste.
Mais n'en veulent pas. Vous voulez dire qu'il y a encore des marges de manœuvre? Enfin, on ne connaît pas, de toute façon, le projet. Non, on dit Gilles Bernstein.
Non, je ne suis pas sûr. Enfin, il y a une partie... Je crois que la majorité est très clivée. Il y a effectivement les marcheurs de base, les réformateurs qui veulent une vraie réforme et qui se disent, si c'est la clause du grand-père, on dira réformateur en carton, c'est pas le macronisme, etc. Et puis, il y a ceux qui ont peur et qui se disent, le seul élément sur lequel on peut jouer, c'est le moment où cette réforme va rentrer en activité, donc cette clause du grand-père, dont Alain Minc disait à juste titre qu'elle devrait plutôt s'appeler clause du petit-fils. Et donc un certain nombre de gens dans la majorité disent si c'est le seul moyen d'arriver... Parce que le pire, ça serait de ne pas réformer du tout, et plutôt que... Enfin, mieux vaut réformer mal que ne pas réformer du tout.
Allez, 20h50 minutes sur France Info. Encore une pause avec vous. Rappel de l'info, Jules De Kiss.
Le Brésilien Neymar n'est pas titulaire ce soir pour le match du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en Ligue des Champions de football. Il aurait pu faire ses débuts dans la compétition cette saison après sa blessure, mais l'entraîneur Thomas Tuchel préfère aligner Kylian Mbappé, André Di Maria et Mauro Icardi en attaque. Coup d'envoi dans 10 minutes à Santiago Bernabéu. Les Parisiens ont besoin d'un match nul ou d'une victoire pour assurer la première place de leur groupe. L'action militaire de la France au Mali est indispensable, d'après le Premier ministre Édouard Philippe. Même si la France paie un lourd tribut après la mort de 13 militaires hier, on en sait plus ce soir sur les conditions de la collision entre deux hélicoptères. Cela s'est passé en pleine opération de combat et en pleine nuit, précise la ministre des Armées, Florence Parly. Adèle Haenel change d'avis et elle va porter plainte contre Christophe Rugia, le réalisateur qu'elle accuse d'agression sexuelle il y a plusieurs années. Dans un premier temps, l'actrice a affirmé ne pas vouloir le faire, soulignant des défaillances du système judiciaire dans de telles affaires. À un peu plus d'une semaine de la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites, jeudi prochain, le gouvernement termine ses consultations. La CGT, la CFDT, EFO ou le MEDEF ont été reçus ces dernières heures à Matignon, mais aucune avancée signalée.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Oui, le 5 décembre, c'est dans 9 jours, et Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale sur France Info ce matin, a réclamé un service minimum garanti digne de ce nom.
Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements ou en tout cas de difficultés pratiques à appliquer ce service minimum dans les transports. Je pense qu'on doit pouvoir le mettre sur la table des négociations. Pourquoi ? Parce que les Français n'ont pas à être pris en otage. Le droit de grève est tout à fait normal, il est constitutionnel, mais je rappelle aussi qu'il y a le principe de continuité du service public et qu'on doit pouvoir allier les deux. La réquisition peut arriver a posteriori, mais je souhaite que, avant cela, il y ait une concertation, un dialogue pour se mettre d'accord avec le partenaire social en disant « Vous avez le droit de grève et c'est légitime. Par contre, la contrepartie de cela, c'est aussi de permettre d'assurer aux Français et celles qui travaillent de pouvoir prendre les transports. »
Roselyne Fèvre, ce service minimum n'était pas une mesure promise par...
Tu vas expliquer ça à Nicolas Sarkozy.
Mais ça marche pas.
Oui.
Ça marche pas. Oui. C'est pas. Sinon, et puis.
Pourtant, il avait dit, quand il y a une grève, plus personne.
Oui, on va voir le 5 décembre s'il y a du monde.
On va s'en rendre compte, oui.
Le texte de Gisèle, il fallait.
Mais sinon, si y a un service minimum, il n'y a pas de grève. Ça n'a aucun intérêt.
Encore un mot, le texte précisait que pour le service minimum, en cas de grève dans les transports, il fallait se déclarer au moins 48 heures avant gréviste. Le problème, c'est quand vous avez tout le monde est gréviste. Et ce qui pourrait peut-être se produire le 5 décembre, le service minimum n'est pas organisable pour l'instant.
En tout cas, ce 5 décembre reste une véritable énigme et nous aurons l'occasion d'en reparler sur France Info d'ici là. Allez, il nous reste très peu de temps. J'avais envie de vous poser la question ce soir. Faut-il interdire le Black Friday? La question qui semble anodine, mais un amendement en ce sens a été adopté hier soir dans le cadre du projet de loi anti-gaspillage. Écoutez les arguments de Delphine Bateau, qui est celle qui a produit cet amendement, la députée écologiste des Deux-Sèvres, qui s'en est expliquée sur France Info.
Le Black Friday s'appuie aujourd'hui sur une espèce de vide juridique, enfin de flou encadrant les promotions pour faire croire aux consommateurs qu'ils en retireraient un avantage équivalent, par exemple, aux réductions de prix pratiquées pendant les soldes, alors que c'est pas du tout le cas. C'est de reconnaître que cette opération est une pratique commerciale agressive et en ce sens illégale pour effectivement y mettre fin. On peut avoir des débats sur l'encadrement des soldes, mais là on est dans une opération de conditionnement mental extrêmement agressive, notamment en direction des jeunes, d'ultra-consuméristes, qui est exactement l'inverse de la société qu'on veut construire.
Gilles Bornstein, après Halloween, ce Black Friday vous irrite? Parce qu'au fond, c'est un modèle sociétal, c'est l'ultra-consumérisme qui est sur la table.
Je garde mon irritation pour d'autres causes. Maintenant, est-ce que c'est ce qui m'éclate le plus dans le monde? Non, Delphine Bateau n'a pas tort, c'est pas tout à fait le modèle de société rêvée. Maintenant, est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus? Franchement, je revendique le droit de ne pas avoir d'avis sur tout.
Ah, vous avez le droit de ne pas avoir d'avis. Roselyne Fèvre, c'est quand même une pratique illégale, parce que ce sont des soldes déguisés, finalement.
Mais oui, parce que selon l'UFC Que Choisir, la moyenne des réductions pratiquées est inférieure à 2%. Donc c'est vrai que c'est une arnaque. Et le législateur, pourquoi pas, dans ce cas-là, doit protéger le consommateur. Et parce que c'est vrai que les gens ont l'impression de faire des affaires. En fait, pas du tout. Effectivement, pour un pays qui met...
Pour le prix catalogue, on lui a mis une réduction massive.
Donc c'est une arnaque.
Albert Zénou, est-ce que l'exception culturelle française se marie bien volontiers avec un Black Friday?
Je sais pas. Alors, il faudrait peut-être interdire Noël et les étrennes, mais je pense que Là aussi, enfin, je prends un avis autorisé.
Contre la danse des canards, le 1er janvier.
C'est un sujet de société, hein. C'est un sujet.
C'est un vrai sujet.
C'est aussi un sujet économique.
C'est un sujet économique puisque ça permet à des marques, à des distributeurs de découler des stocks et des invendus. Souvent, les promotions ne sont faites que sur des produits qui ne se vendaient pas très bien.
Alors, Gilles Bornstein, je reviens vers vous. Ben, j'insiste, hein. J'ai noté cet argument. La pauvreté explose en France et le Black Friday a été importé en 2013. Mm-hmm. Et la pauvreté, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reculé depuis. C'est un attrape-mouche, au fond.
C'est absolument. C'était certain que c'est une opération pour les classes moyennes et classes moyennes supérieures qui peuvent consommer et qui ont envie de consommer. Ça, c'est certain que du point de vue de la pauvreté, du point de vue de l'égalité, du point de vue de la dignité des êtres humains qui n'a rien, ce genre d'opération est absolument déplorable. Mais enfin, c'est pareil des soldes, c'est pareil des courses de Noël. Les courses de Noël, c'est exactement pareil. Mmh. Quand vous voyez les gens faire la queue devant des boutiques de luxe pour acheter de la nourriture extrêmement chère pour les réveillons, la pauvreté, elle existe pareil. Donc c'est pas le fait qu'il y ait un Black Friday juste avant ne change pas finalement grand. Enfin, si on prend les choses du côté de l'indécence, parfois, de la société de consommation, elle est avérée avec ou sans le Black Friday.
Alors, Roselyne Fèvre, c'est quand même dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Nous sommes dans une période où, au fond, on en appelle à des comportements vertueux de la part des pouvoirs publics, des consommateurs, de tout le monde. On parlait énormément de développement durable. Aujourd'hui, on essaie d'aller vers une société un peu meilleure. Est-ce qu'au fond, Delphine Bateau n'a pas peut-être raison de vouloir réfréner ce type d'opération?
Oui, elle n'a pas tort, d'autant que, vous l'avez dit, la France met au fronton même de sa diplomatie le climat, la lutte contre...
Enfin, c'est de façon légitime, c'est mondial quand même, hein, c'est un phénomène mondial.
Bien. Oui.
Pas que la France.
Bah, hein, la France veut être en pointe, c'est quand même nous qui avons fait Cocorico, le sommet pour le climat à Paris.
Pour continuer dans le Cocorico, le Black Friday, c'est l'écoulement de produits made in China. Pour l'essentiel,
en plus.
Donc c'est faire venir des produits par bateau ou par avion, surtout par bateau, et aider l'industrie chinoise.
Mais est-ce qu'il faut des sanctions contre ces pratiques avec de lourdes amendes à l'encontre des groupes qui s'y adonnent.
En français, c'est
ce que propose Delphine Bateau.
De vouloir taxer, de vouloir légiférer partout. Je suis pas sûr que ce soit la solution. Je suis un affreux libéral, donc je pense que les Français et les consommateurs ont le droit de choisir. Et
si vous êtes un affreux libéral, vous êtes content qu'il y ait des produits chinois pas chers.
Ouais.
Non, mais je suis pas un affreux ultra-libéral.
Libéral modéré.
Albert Zenou, la une du Figaro, j'ai l'impression que mon sujet vous a agacé. La une du Figaro demain matin.
Alors, on ne parle pas de Black Friday. Non, c'est l'hommage rendu à la nation aux 13 soldats morts.
Bien évidemment, édition, j'imagine, un petit peu spéciale, de larges pages à lire dans le Figaro. Demain, merci à tous les trois, Roselyne Fèvre, Albert Zenou, Gilles Bornstein, et auparavant, elle était avec nous, Claude Guibal, d'avoir participé à ces informés de France Info. Je vous dis à demain soir.